Yann Gosselin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous présentez Vision, votre dernier film qui sort le 6 septembre. Alors, après Boîte Noire, vous nous emmenez de nouveau dans les airs. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre passion pour l'aéronautique, pardon? Et est-ce que ça va jusqu'à voler ou vous restez dans le simulateur?
Par rapport au tournage même?
Non, mais même par votre passion, peut-être.
Ah oui, tout à fait. Alors, je trouve que l'univers de l'aéronautique, c'est un univers assez fascinant, extrêmement cinégénique. Il se trouve que effectivement, donc j'ai fait un film qui s'appelait Boîte Noire, qui était une enquête du BEA, le Bureau d'enquête et analyse, qui enquêtait sur les accidents d'avion. Alors, celui-ci, je me suis pas dit tiens, je vais
poursuivre
ou repartir sur les avions. En fait, j'ai commencé à écrire Vision il y a maintenant quand même presque 7 ans, 8 ans.
Avant Boîte Noire.
En parallèle, plus ou moins, parce que j'ai aussi mis beaucoup de temps. Je suis très lent comme garçon, donc c'est des scénarios qui m'ont pris beaucoup de temps. Que j'ai pas abandonné, mais que j'ai laissé de côté pour que ça mûrisse dans ma tête, et puis que j'ai repris. Donc, tout ça a été un long process pour les deux films. Et effectivement, pour Vision, l'idée, le point, ça, tout est venu de l'envie, de la thématique que je voulais aborder dans ce film, que je voulais explorer, qui était pour moi la thématique du contrôle et du dérèglement. Je trouve que c'est une dualité qu'on a en chacun de nous, cette idée de, si vous voulez, on aspire tous à un désir de sécurité, de répétition, d'ordre dans nos vies. Et en même temps, on a tendance à vouloir y échapper, à connaître des aventures, à être destructeur ou autodestructeur. Si vous voulez, le conflit entre passion et raison, si je simplifie un peu. Et j'avais envie de trouver une histoire, un personnage, la profession du personnage qui pouvait exprimer au mieux cette thématique-là et cette dualité-là. Et je trouvais que la figure de d'une femme commandant de bord, d'une femme pilote de ligne long courrier, c'était pour moi une figure pertinente. Pour initier la mécanique du dérèglement que je voulais développer dans ce film, parce que j'ai rencontré beaucoup de commandants de bord, de pilotes de ligne, hommes et femmes, pour me documenter par rapport à cette profession. Et c'est une profession passionnante par rapport à l'idée de contrôle, parce que évidemment ils ont des responsabilités énormes, la vie de centaines de passagers, la vie humaine. Donc là, on plaisante pas, on rigole pas. Donc il faut être évidemment dans la maîtrise et le contrôle. Et il faut savoir que c'est une profession qui est, les pilotes sont constamment contrôlés en permanence.
Et ça, c'est l'originalité quand même du film. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un aspect
qu'on ne connaît pas très bien. Et ouais, c'est ça que j'aime bien, comme dans tout film, de rentrer dans un monde. Et même si le film, si vous voulez, n'est pas une description du monde de l'aéronautique, le fait qu'elle soit pilote de ligne est fondamental dans le film, parce que il y a une composante essentielle qui est celui du contrôle dont je parlais, qui est donc vous êtes soumis à des tests d'aptitude, QCM, simulateur en permanence. Et en plus, il faut savoir que vous êtes aussi testé, vous avez des examens médicaux, vous devez vous entretenir avec des psychologues pour savoir si en gros si tout va bien dans votre vie, que vous êtes pas commencez pas à déprimer. Et donc j'ai eu, si vous voulez, je ne pouvais pas ne pas penser au drame de Germanwings, même si le film n'a strictement rien à voir, ce drame, cette catastrophe terrible.
Il était en principe contrôlé.
Est passé dans les mailles du filet. Et donc il avait.
Comme indirectement, vous montrez aussi un petit peu.
Oui. Ça, exactement. Ça, et si vous voulez, donc même si je voulais pas faire un documentaire sur ce drame, ça a nourri, ça a irrigué vraiment l'histoire. Donc pour répondre à votre question, il s'est trouvé que je suis reparti là-dessus, mais c'était vraiment pour moi pour vraiment incarner au mieux la thématique du contrôle et du dérèglement.
Alors vous n'êtes pas seul à l'écriture, puisque il y a quand même Michel Fessler. Il y a aussi Aurélie Vallat.
Oui.
On cite Mécanique de l'ombre, et il y a Jean-Baptiste Delafont, Promesse, Baron Noir.
Oui,
et alors une petite participation
d'Audrey Diwan, oui, tout à fait.
Ça fait quand même dont on a apprécié récemment l'amour et les forêts. Comment ça se passe?
Ça a été, comme je vous dis, un très long process. Alors je les ai épuisés les uns après les autres.
Ah oui, c'est ça.
Donc, et si vous voulez, chacun a amené énormément. Et j'ai commencé à travailler avec Michel sur les premières versions du scénario. Ensuite, Aurélie est venue et a reconstruit les choses. On a essayé de développer un peu plus les personnages, à ciseler un peu plus l'histoire. Donc ça a été aussi un gros travail. On a fait lire cette version à Audrey, qui nous a amené, qui nous a fait part de ses, de ce, de son analyse, qui a amené aussi une scène importante dans le film que j'aime beaucoup, qui est la scène de la tequila, de séduction entre les deux femmes, puisque le film raconte quand même l'histoire de donc un triangle amoureux. Il y a un triangle amoureux, un peu toxique, même beaucoup, on va dire. Voilà. Donc cette scène-là était un de ses apports. Et puis Jean-Baptiste, qui a vraiment repris aussi, alors là, l'intégralité du film et qui a, voilà, qui a vraiment écrit la toute dernière mouture, qui est vraiment la version qui a donné lieu à la dernière version de tournage.
Alors le spectateur est mis sous pression en permanence.
En tout cas, j'ai tenté.
Et donc que ça soit les vols, les simulateurs, les chiens, les motards, les silhouettes qui passent, la foule au Japon. Ouais. Je me dis qu'il y a un énorme travail de montage, puisque finalement vous avez quand même tourné en mai-juin de l'année dernière.
Oui.
Donc le montage a dû quand même être conséquent. Non?
Oui. Alors bizarrement, si vous voulez, le travail a été plutôt un travail classique de montage fondamental. C'est une étape, un process dans que j'adore, mais qui est d'ailleurs très cinématographique, qui n'appartient qu'au cinéma, le montage. Hein. Autant l'écriture, on pourrait dire que ça s'apparente aussi à l'écriture d'un roman, même si le scénario est différent. Le tournage, bon, c'est de la photographie et en même temps, c'est du théâtre. Vous filmez des acteurs. Mais le montage, c'est pour moi l'étape qui n'appartient qu'au cinéma, quoi. Rassembler des plans et du son, et ça crée un sens inouï. C'est la puissance du cinéma. Et alors, en fait, ça a été un travail plutôt classique, et je m'attendais, comme c'est un film assez sensoriel, où l'héroïne est bombardée d'images, de visions qui la hantent, dont on ne sait pas très bien la nature. Est-ce des rêves prémonitoires? Est-ce des visions? Est-ce que c'est des réminiscences de scènes dont elle aurait oublié l'existence? Bon, toutes ces questions, évidemment, se posent.
Jusqu'à la fin.
Et c'est ce qui rend, je pense, le film aussi ludique. Moi, ce que j'aime dans le thriller, c'est que vous instaurez un dialogue avec le spectateur, vous lui demandez de deviner, d'essayer de décrypter les signes, de la même manière qu'Estelle, l'héroïne, tente de décrypter les signes autour d'elle qui lui paraissent complètement déformés. Alors évidemment, je précise qu'il y a quand même une résolution à la fin pour expliquer tout ça. J'en perds le fil, pardonnez-moi, et vous me demandiez... oui, par rapport au montage, pardon. Oui. Et donc, si vous voulez, je me disais justement que j'allais pouvoir changer l'ordre, que j'allais être vraiment très libre. Et en fait, bizarrement, pas du tout. Ça ne fonctionnait pas. Je devais être... Alors, évidemment...
Suivre.
Alors, évidemment, il y a que tout. Vous avez dans une scène, par exemple, de dialogue entre deux personnages, c'est un travail de fourmi, parce que vous avez des intonations qui sont différentes. Vous pouvez, suivant le montage, changer la couleur d'une scène. Donc, le travail... Vous pouvez monter une scène complètement différemment si vous avez le matériel. C'était le cas aussi parce que je demandais par exemple à Mathieu Kassovitz, qui interprète le mari, d'être assez ambigu. Donc on ne sait jamais ce qu'il pense réellement. Et donc à chaque fois, je lui demandais pour une même phrase de la jouer complètement différente et avec une intonation complètement différente. Du coup, j'avais un matériel au montage où je pouvais vraiment monter la scène de la manière complètement opposée. Il pouvait apparaître extrêmement inquiétant ou au contraire très bienveillant à l'égard de son épouse, ou au contraire très ambigu. J'ai toujours essayé d'être dans l'ambiguïté en permanence. Et donc, en fait, j'ai eu un travail où j'ai resserré le film à l'intérieur des séquences, mais l'ordre chronologique des séquences n'a jamais bougé, et c'était celle du scénario. C'est ce qui explique aussi le fait que, bon, j'ai travaillé quand même de nombreuses années sur ce script, donc il y avait quand même une idée il y avait quand même une sorte de mécanique d'horlogerie qui est imposée par le genre du thriller, où vous avancez vos pions un petit peu, il y a un côté, vous savez, comme un jeu d'échecs, quoi, voilà. Et donc, vous ne pouvez pas déconstruire comme vous le souhaitez, n'importe comment. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réécrire le film complètement au montage. Ce n'est pas possible. En tout cas, dans ce registre-là et pour ce film-là, ce n'était pas possible. Donc, ça a été un travail plutôt à l'intérieur des séquences, mais l'ordre chronologique, il n'y a pas eu du tout de révolution par rapport au scénario.
Alors, on a parlé de Mathieu Kassovitz, mais parlons quand même de Diane Kruger.
Qui porte le film.
Alors, qui joue Estelle, la pilote de ligne.
Oui.
Quand est-elle arrivée dans votre...
Tout de suite, quand j'ai terminé le scénario, j'ai écrit, j'avais pas d'actrice en tête. Je dis souvent que j'avais, en fait, je fantasmais, j'étais avec des images d'actrices hitchcockiennes des années 50 ou 60. Je pensais par exemple à Tippi Hedren dans Marnie ou Grace Kelly, mais j'avais pas du tout, ça m'aidait. Je pensais pas à Kim Novak, mais autre actrice hitchcockienne, évidemment. J'ai shippé le chignon là, le, voilà, qui était une, pour moi un petit clin d'œil, qui renvoyait aussi à cette idée de spirale, parce que ce film c'est quand même la chute d'une femme, la spirale dans laquelle elle va plonger, ce vertige dans lequel elle est, et c'est ce que je voulais faire vivre au spectateur. Et donc non, je n'avais pas d'idée préconçue, et c'est vraiment au casting, au moment du casting, je me dis bon, à qui je vais proposer le rôle, et tout de suite l'image, le visage de Diane s'est imposé à moi, tout simplement parce que j'avais besoin d'une excellente comédienne, parce qu'elle allait, je savais qu'elle allait être de tous les plans, et c'est le cas, elle porte vraiment le film sur ses épaules. C'est un film où on est à la première personne, hein, on est vraiment en subjectivité, on voit et on entend ce que à travers ses yeux, son regard, hein, donc on vit vraiment ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Donc il me fallait quelqu'un qui allait être à la hauteur et qui allait être une excellente comédienne. Et si vous voulez, elle a pour moi elle a un magnétisme incroyable à l'écran, elle a une cinégénie spectaculaire qui la rend qui fait que c'est tout de suite du cinéma quand vous la filmez. Et elle, ça la rend aussi, je trouve qu'elle est là pour moi l'héroïne de la figure hitchcockienne par excellence, et c'est ce que je voulais pour le personnage. Et elle avait surtout cette énorme qualité, c'était ce mélange de force et de fragilité. Je savais que tout de suite elle allait être
dans Maryland, elle est...
Oui, tout à fait, très très forte. Je savais qu'elle allait être impeccable pour incarner cette femme qui nous impressionne tout de suite au début du film quand elle est aux commandes de son avion, qui est cette femme dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la performance, mais en même temps qu'elle était tout à fait capable d'incarner l'autre versant du sujet du film, qui était la chute, le vertige dans lequel le personnage s'enfonce, la fêlure en fait de ce personnage, parce que c'est un personnage qu'on croit connaître au début, qui nous apparaît très très fort, mais en fait, quand elle retrouve par hasard Anna, c'est une femme avec qui elle a eu une aventure 20 ans plus tôt. En fait, on va réaliser qu'on va découvrir un autre versant de sa personnalité, et on va voir une femme extrêmement fragile et obsessionnelle.
Alors, le temps est essentiel pour elle, en tout cas, et c'est au chrono tout le temps. Oui. Et un peu aussi, cette notion d'horloge biologique, est-ce que c'est un des éléments qui a convaincu Diane, puisqu'elle a quand même une fille de 4 ans, et elle a quand même 47 ans aussi.
Oui.
Est-ce que ça l'a titillé un petit peu?
C'est marrant, j'en ai pas discuté avec elle, mais ce qui est sûr, c'était quelque chose qui, moi, m'intéressait et qui a aussi à voir avec le cycle biologique. Je trouvais intéressant, surtout par rapport aux pilotes de ligne, d'avoir quelqu'un qui s'impose un rythme de vie, un contrôle, à la fois dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et elle s'impose une hygiène de vie, enfin de malade, enfin pour un rythme.
Balance au gramme près.
Exactement. Le rituel matinal qu'elle a, où on la voit vraiment peser ses fruits et légumes pour son jus matinal, les séances de sport intensives qu'elle s'impose pour maîtriser son corps. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir un personnage qui est tout le temps dans le contrôle, et dans le contrôle aussi de son corps. Et tout le film, si vous voulez, c'était de montrer comment cette femme dans le contrôle allait complètement dérailler, comment la machine allait se gripper. Et cette mécanique du dérèglement, moi, elle me fascine. Et elle m'inquiète, elle me fait peur, mais elle me fascine en même temps. Et le film, je pense, montre cette fascination-là.
Alors, deux affiches. Alors, on ne demande pas au père quel est celui des enfants qu'il préfère, mais quelques indices quand même, parce que d'un côté on a l'œil, bien entendu, qui est indispensable.
Qui est le motif visuel récurrent du film,
Et alors après, il y a ces murs-là.
Oui, ce couloir dans cette maison.
Expliquez-nous un petit peu laquelle des deux.
Ce que j'aime, c'est que c'est un peu deux. Je trouve que les deux affiches, elles me plaisent beaucoup parce qu'elles expriment l'aspect mental, l'inquiétante étrangeté du film. On voit cet œil bleu dans lequel elle nage et elle s'enfonce dans l'iris noir. Je trouve que c'est vraiment le film. Quelqu'un qui va plonger dans un sorte de précipice sans le savoir. Et puis il y a ça aussi, ce couloir où on la voit s'approcher et un peu inquiète. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce couloir? Les deux affiches vraiment expriment, je trouve, l'univers et le mystère et l'énigme, parce qu'il y a une énigme à résoudre dans ce film. Je parlais de l'aspect ludique, il y a quand même une énigme à résoudre, et je trouve qu'en fait elle fonctionne en plus en duo pour moi, ces deux affiches. Il y a toujours Diane en maillot rouge qui est là, il y a le bleu de l'œil, on voit le bleu du ciel dans l'autre affiche, donc elle fonctionne un peu en symétrie. Donc je trouve que ces deux affiches, une qui est plus une affiche teaser si vous voulez, celle de l'œil, et l'affiche principale qui sera celle du couloir, mais je trouve que ces deux affiches qui se marient bien, qui sont vraiment doubles.
Yann, un grand merci. On rappelle Vision qui sort le 6 septembre.
Merci beaucoup.
Merci.